Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il va nous aider à tout comprendre des enjeux et de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. La situation s'embrase entre Israël, Palestiniens, avec des images la nuit dernière de lynchage en pleine rue. Le risque de guerre civile est réel, dit l'ONU. On en parlera avec le géopolitologue Frédéric Ancel. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Anne Hidalgo veut rendre quasi-piéton le centre historique de Paris et ça fait débat, on en parlera. 19h10, la carte blanche de la philosophe Juliette Funès. Et à 19h20, le Club des idées, comment soutenir nos éleveurs et nos producteurs de lait qui ont bien du mal, c'est vrai, aujourd'hui à s'en sortir. On va y consacrer ce soir notre débat dans le cadre de notre grande semaine sur l'agriculture. Alors pourquoi ne sont-ils pas payés au juste prix? La grande distribution joue-t-elle le jeu? L'enjeu est énorme car le lait, c'est une filière française d'excellence. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec vous Christophe Lamar. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Retrouver nos amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps à cause de la distanciation, le confinement, machin et tout. Donc non, là ça va faire du bien.
Un jeudi de l'ascension à la plage. Pour ce week-end prolongé, ils ont choisi le Grand Ouest et l'air de la mer malgré le vent et le temps maussade.
Ils se reposent, d'autres gardent le rythme. Le gouvernement élargit la campagne de vaccination. Près de 630 000 injections hier et les kinés comme les médecins du travail peuvent désormais piquer.
La communauté internationale parle d'une escalade dramatique entre Israël et le Hamas. L'ONU redoute une guerre à grande échelle alors que les affrontements ont déjà fait une centaine de morts.
L'interpellation d'un couple soupçonné d'avoir dirigé un réseau pédopornographique qui l'aurait fait une centaine de victimes.
Dans les Cévennes, le fugitif responsable d'un double meurtre est toujours introuvable. Son père lui demande de se rendre. 350 gendarmes et policiers sont à sa recherche.
Un premier film dans l'espace, il fallait y penser. La Russie envoie une actrice et un réalisateur pour tourner un long métrage à bord de la station spatiale international.
Rémi Livalière y croit, le club amateur affronte Monaco ce soir en demi-finale de la Coupe de France de football. Et puis la Bourse de Paris termine en légère hausse, plus 0,14% à 6288 points.
La météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
C'est un temps très ensoleillé qui nous attend demain. Non, je plaisante, c'est pas
non,
vrai.
C'est une blague. Non, c'est un temps un petit peu plus calme qui nous attend demain. J'essaye de trouver des bonnes nouvelles dans ce ciel gris. Nous aurons quelques petites pluies le matin, une légère, très légère amélioration dans l'après-midi. Les températures, elles, restent toujours très, trop fraîches pour la saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La météo n'est pas vraiment à la fête, on vient de l'entendre, sur une grande partie de la France. Temps frais et capricieux au programme, il n'empêche, les vacanciers du pont de l'Ascension ont décidé d'en profiter quand même.
Oui, ceux que nous avons rencontrés avaient le choix entre l'air de la mer ou celui de la montagne. Ils ont choisi les plages du Grand Ouest et il ne fait pas très beau. Ça n'a pas empêché les vacanciers de venir, au contraire, ils sont très nombreux, Charles Guyard.
Oui, et c'est arrivé de toute la France, hein, comme le confirme d'ailleurs ce responsable d'un club de voile très observateur.
J'ai regardé les plaques qu'il y avait sur le parking, ça vient d'un peu partout.
Sandra, Michael et leur petit Mathéo ont roulé depuis la Sarthe. Et en attendant de récupérer les clés du mobilhome qu'ils ont loué à Taron, la petite famille casse la croûte à l'arrière de la voiture.
Du coup, avec les restaurants qui sont fermés, on a la chance déjà de pouvoir manger dehors avec ce soleil-là.
Un soleil furtif, hein, cependant, car aujourd'hui, il fallait surtout jongler en traverse et éclaircie.
Ouais, on a de la chance parce qu'on a eu de la pluie sur la route.
En tout cas, pas de quoi décourager Baptiste et son papa qui ont déjà concocté leur programme.
Je vais jouer dehors, au ballon, faire du vélo et aussi la plage. Et
même si le temps n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais ça fait du bien de couper, ouais.
Eux, c'est la distance qui les sépare, qu'ils ont coupé en deux. Un couple qui vient de Brest, l'autre de La Rochelle et au milieu, la région de Pornic, pour des retrouvailles très attendues.
Voilà, retrouver nos amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, à cause de la distanciation, le confinement, machin et tout. Donc, non, là, ça va faire du bien.
On reprend un peu goût à la vie, quoi. Si tout le monde fait attention, je pense que ça peut durer, quoi.
Pourvu que ça dure, en effet, en attendant, jusqu'à dimanche, la grande préoccupation ici est donc de composer avec une météo un peu capricieuse.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, et confirmation sur les routes d'Île-de-France notamment, où la journée était classée rouge, week-end de l'Ascension plus jour férié égale moins de 10 km de bouchons cumulés relevés effectués aux heures de sortie de bureau.
Oui, alors cette succession de ponts et de jours fériés s'annonce ne doit surtout pas ralentir le rythme de vaccination. C'est l'un des objectifs du ministre Olivier Véran.
Gardez la cadence, quoi qu'il arrive, plus de 630 000 injections ont été réalisées hier et on n'est pas très loin du record. Et la France franchira probablement aujourd'hui le seuil des 19 millions de vaccinés. On aura les derniers chiffres dans les heures qui viennent pour être sûr de garder ce rythme élevé. Le gouvernement élargit la liste des vaccineurs, hein, Anne Le Gall.
Exactement, les kinés, aides-soignants, puéricultrices, ambulanciers et secouristes de niveau 2 vont désormais pouvoir vacciner. Cela fait potentiellement 500 000 personnes supplémentaires. Et le gouvernement espère battre un nouveau record avec 3,5 millions d'injections d'ici dimanche soir. On a les doses pour cela. Alors, il est vrai qu'habituellement, le nombre d'injections baisse de 50% les week-ends et jours fériés. Mais pour garantir la mobilisation des vaccinateurs durant ce week-end de l'Ascension, les équipes médicales toucheront des primes de jours fériés sur 4 jours et leur rémunération sera aussi gonflée pour les nocturnes après 20 heures. Selon le site Doctolib, le nombre de rendez-vous pour une première injection a bondi de 80% hier par rapport à mercredi précédent. Un bon signal donc. Et le cap symbolique des 20 millions d'injections fixé par le gouvernement pourrait ainsi être franchi le 17 mai, lundi donc, et peut-être même dimanche soir si l'on a une bonne surprise.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. La Grande-Bretagne pensait en avoir fini avec le virus, mais c'était sans compter sur le variant indien.
Quelques cas signalés près de Manchester. Boris Johnson se dit inquiet, mais le Premier ministre maintient le calendrier du déconfinement. Les pubs et les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l'intérieur à partir de lundi. La levée totale des restrictions est prévue pour le 21 juin.
Au Proche-Orient maintenant, la tension ne retombe pas entre Israël et dans les territoires occupés.
Une centaine de morts, principalement à Gaza, après les bombardements de l'armée israélienne en réponse aux tirs de roquettes du Hamas. Après avoir visé l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, le mouvement islamiste a ciblé un deuxième aéroport près d'Elat dans le sud. Jean-Sébastien Soldaini, guerre dans les airs, mais guerre aussi au sol.
Et Gaza semble encore plus sous pression. Après les bombardements, Israël déploie désormais des chars et des blindés le long de la frontière. Le porte-parole de l'armée affirme que parmi les scénarios à l'étude, il y a celui de l'invasion terrestre de l'enclave palestinienne. Pas de quoi rassurer Assia, une habitante de la bande de Gaza qui vit depuis 3 jours au rythme des bombardements.
Personne ne rentre, ne sort de la maison. On peut marcher, mais pas loin, et c'est risqué. Alors on est dans la maison, en train d'attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va se passer? Des fois, j'ai l'espoir que ça va se calmer. Ils ne veulent pas s'arrêter, ils veulent continuer les bombardements, ils veulent continuer la guerre sur Gaza. On va vers la mort.
La région est comme plongée dans un double conflit. En plus des affrontements avec le Hamas, Israël est secoué par des émeutes intracommunautaires. Les villes mixtes, là où cohabitent juifs et arabes israéliens, connaissent des scènes d'affrontements. Il y a même eu le lynchage d'un arabe diffusé en direct à la télévision. C'était tout près de Tel Aviv. Si bien que le ministre de la Défense, Benny Gantz, y envoie des renforts. Il y a là la crainte de voir une guerre civile s'ajouter à un conflit armé qui vient brutalement de se raviver.
Merci Jean-Sébastien Soldaini. À Paris, le ministre de l'Intérieur demande au préfet d'interdire la manifestation de soutien à la Palestine, prévue donc samedi, place de la République.
Et puis l'Italie inflige une amende de 100 millions d'euros à Google pour abus de position dominante. Le gendarme de la concurrence italien reproche au géant américain de ne pas accepter d'application tierce sur sa plateforme Google Pay.
À Perpignan, les policiers viennent de mettre fin à la cavale d'un couple soupçonné d'être à la tête d'un réseau de pédopornographie.
Les deux hommes ont été interpellés après une fuite qui aura duré 3 ans. Ils ont été interpellé hier, Marion Dubreuil.
Oui, le couple de pédocriminels résidait en toute discrétion à Amélie-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales. C'est grâce à des écoutes téléphoniques que les policiers ont retrouvé leurs traces. Le premier a été interpellé à Perpignan, le deuxième à leur domicile, où la police a saisi 20 000 euros en liquide, des faux papiers, ainsi qu'un ordinateur et plusieurs clés USB. Ces deux producteurs de pornographie gay s'étaient reconvertis dans la pédopornographie au début des années 2000. Ils avaient profité de la structure légale de leur société pour monter un véritable réseau criminel. Installés en Catalogne, ils avaient des antennes à travers toute l'Espagne, mais aussi au Maroc, en Roumanie, en Thaïlande. Ils alimentaient 24 domaines sur Internet pour fournir 550 utilisateurs en contenu inédit. Un réseau démantelé en 2016 par l'Espagne. La police avait alors saisi 1600 DVD et identifié une centaine de victimes. Des mineurs marocains, pour la plupart, payaient 10 ou 20 euros contre des actes sexuels filmés. Le couple de Français avait profité d'une libération sous contrôle judiciaire avant le procès pour prendre la fuite en 2017. Cette fois-ci, ils n'échapperont pas à la justice. Sous le coup d'un mandat d'arrêt des autorités espagnoles, ils pourraient être remis à l'Espagne dans les jours ou semaines à venir.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, la suite de votre journal. On évoquera évidemment cette traque totalement inédite qui se poursuit dans les Cévennes pour retrouver la trace du fugitif meurtrier.
Et puis la Russie veut tourner un film dans l'espace.
A tout de suite. Et c'est donc une traque absolument hors norme qui est engagée dans les Cévennes depuis 3 jours maintenant. Toujours aucune trace de Valentin, ce fugitif soupçonné d'avoir tué 2 personnes.
Oui, cela fait près de 3 jours maintenant qu'il est caché effectivement quelque part dans cette forêt située près de la commune des Plantiers. C'est là qu'il aurait abattu deux hommes, le patron et un employé de la scierie où il travaillait. Le dispositif déployé par les gendarmes et les policiers a été renforcé et les recherches évidemment se poursuivent, Stéphane Frangy.
Oui, et oui, malgré cette traque qui est vraiment méthodique, le général de la division de gendarmerie vient de nous confirmer qu'ils n'ont absolument aucun contact, pas la moindre piste depuis trois jours maintenant, malgré les moyens qui sont mis en place, les chiens pisteurs, les survols d'hélicoptères avec caméra thermique. Les gendarmes ont tenté néanmoins de nouvelles choses aujourd'hui avec ce message du père du fugitif, message d'un père à son fils pour l'implorer de se rendre. Écoutez.
Valentin, c'est papa, je t'aime, nous t'aimons. Nous avons tous besoin de toi. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant. Mon fils, fais-moi confiance. Je t'aime. Nous sommes tous avec toi.
Voilà les gendarmes qui vont augmenter leurs effectifs et qui diffusent également depuis ce matin un appel à témoins avec le visage, la description physique et vestimentaire du fugitif, ce qui a donné lieu à 50 appels de signalement qu'il a fallu vérifier à chaque fois sur place. Certains habitants d'un hameau ont même entendu signaler des coups de feu, mais sans résultat. La préfète du Gard vient de nous indiquer d'ailleurs que cette chasse à l'homme pourrait bien s'inscrire dans la durée.
Merci Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard.
Une reprise partielle du trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne. Comptez un train toutes les heures jusqu'à dimanche. Les travaux de remise en état des voies endommagées par un glissement de terrain débuteront la semaine prochaine.
La conquête spatiale racontée de l'intérieur. C'est un projet un peu fou et c'est la Russie qui est à la manœuvre. Réaliser un film, une fiction dans l'espace.
Avec son titre, Le Défi. À défaut d'avoir marché sur la Lune, la Russie sera peut-être la première à tourner dans l'espace. Moscou va donc envoyer une actrice et un réalisateur à bord de la Station Spatiale Internationale. Leur mission, réaliser le premier film en apesanteur, Angèle Châtelier.
Oui, bientôt peut-être il n'y aura plus besoin de se contenter d'un fond vert et d'effets spéciaux monstrueux pour reproduire l'espace, comme c'était le cas dans Gravity par exemple.
Je vois rien, j'ai rien. Non. Non.
L'agence spatiale russe Roscosmos souhaite envoyer dans la Station Spatiale Internationale dès octobre prochain une actrice Yulia Peresild et un réalisateur Klim Shipenko pour ce qu'ils décrivent comme étant un projet scientifique et éducatif à grande échelle et ce qui serait le premier film à être véritablement tourné dans l'espace. Alors évidemment, ni elle ni lui ne sont des astronautes professionnels. Ils devraient donc commencer à se former aux vols spatiaux dans quelques semaines selon l'agence. Mais on connaît la guerre qui se joue entre la Russie et les États-Unis depuis des années, dans une course pour être toujours le premier dans les expérimentations spatiales. Il semblerait que ça continue, puisqu'il y a une dizaine de jours, la NASA et Elon Musk avaient fait part d'un projet similaire, envoyé Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman à bord de l'ISS, là aussi, pour tourner une scène de son prochain film. Départ prévu en octobre 2021 encore, reste à savoir qui arrivera le premier.
Voilà, récit signé Angèle Châtelier. Ils ne sont pas astronautes, ils sont footballeurs et s'ils battent Monaco ce soir, les amateurs de Rumilly-Vallières se feront sans doute entendre jusque sur la station spatiale. Un club amateur face aux pros, a priori, c'est déséquilibré, mais ça n'empêche pas les supporters d'y croire.
Parce que c'est les demi-finales et ils ont fait un beau parcours en Coupe de France. On aurait bien aimé aller voir le match en vrai.
Moi aussi, j'aimerais bien y aller sur mon club.
T'es fier d'eux ou pas?
Ouais, je suis fier d'eux. J'ai regardé tous les matchs.
Et alors?
Et ils sont forts.
Ce petit club, voir monter comme ça, aussi haut, on est vraiment fiers. Puis ils représentent notre ville où on habite. On est très heureux. On aurait préféré être dans les tribunes, mais c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, on préfère garder nos distances et on reste là, quoi. On va regarder à la télé. Confiant, oui, confiant, confiant.
Là, ils sont prêts pour l'exploit. Quelques supporters rencontrés par Julien Froment, Rumilly-Vallières, Monaco. Coup d'envoi à 21h15. Un match à suivre en fil rouge, bien sûr, sur Europe 1.
Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres, évidemment. La météo, Anissa Haddadi, avec un début de journée encore humide demain.
Oui, des Pyrénées jusqu'à l'Alsace en passant par le Massif central. Julien, la journée de demain commence encore pour toutes ces régions sous la pluie. Sur les Pyrénées et les Alpes, il neige à partir de 1400 mètres d'altitude. En Normandie, en région parisienne et sur les Hauts-de-France, nous aurons quelques averses demain matin. Partout ailleurs, le soleil va se montrer. Alors timidement, mais il va se montrer quand même, il faut en profiter. Au fil des heures, les pluies se calment. On a une légère amélioration, hein, demain, très légère. Les pluies vont se calmer sur la façade atlantique, les côtes de la Manche et le pourtour méditerranéen. Le temps est sec avec des éclaircies. Donc si vous êtes au bord de la mer ou de l'océan pour ce long week-end de l'Ascension, profitez-en. Ailleurs, et en particulier dans le Grand Est, le temps reste humide avec de nombreuses averses et des orages qui éclatent dans l'après-midi. Les températures. températures, elles sont fraîches pour la saison. 4 à 13 degrés demain matin. Nous aurons 4 à 8 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 13 degrés dans le sud. Et puis au meilleur de la journée, de la fraîcheur à cause du vent encore qui va souffler pas mal dans le sud-ouest et au bord de la Méditerranée. 12 degrés pour Aurillac, 13 à Rodez, 14 à Brest, 15 pour Paris et Chambéry. C'est très frais hein, pour un 14 mai. 16 degrés à Clermont-Ferrand et Biarritz, 17 à Strasbourg, 19 à Nice. Et 22 degrés, la maximale pour Marseille.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
À tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. On vous expliquera tout sur la situation au Proche-Orient et ses enjeux, évidemment, pour toute la région avec le géopolitologue Frédéric Ancel. À tout de suite. Et ce soir, notre invité à 18h20, c'est un grand spécialiste en géopolitique qui connaît bien la situation et les problématiques évidemment du Moyen-Orient. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir pour nous éclairer, c'est vrai, sur ce qui se passe en ce moment en Israël et dans les territoires palestiniens. Alors, en trois jours, la situation s'est embrasée, menace de se transformer en une nouvelle guerre aux conséquences multiples, on va en parler. Et on a assisté déjà à des lynchages dans les deux camps. Celle de cet homme, d'abord en direct à la télévision, qui a beaucoup choqué en Israël, qui est a priori arabe, passé à tabac par des dizaines de juifs, issus, dit-on, de l'extrême droite au sud de Tel Aviv. Comment d'abord vous réagissez à ces images ?
Ah ben, je réagis très mal parce que ce serait une première en Israël. Hein. Je vous rappelle que l'État a été créé en 1948 et que sauf quelques jours de violence plus ou moins spontanée en 2000, donc autrement dit au début de la deuxième intifada, hein, extrêmement meurtrière elle-même. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a jamais eu en Israël de véritable prodrome d'une guerre civile. Mmh. En dépit, effectivement, de la présence de deux grandes communautés, on va les appeler comme ça, les Juifs et les Arabes.
Bon. Cette menace de guerre civile, elle est réelle aujourd'hui, Frédéric Ancel ?
Je crois pouvoir affirmer que non, ou plus exactement qu'il y a peu de chances qu'elle se produise. D'abord parce que depuis 1948, les 20% de citoyens arabes israéliens ont toujours été extrêmement loyaux à Israël. Pour l'essentiel d'ailleurs, ils bénéficient de quasiment tous les mêmes droits et devoirs civiques. On l'a encore vu récemment aux élections. Et puis, sur le plan politique et social, si vous êtes arabe israélien et que vous regardez une carte du Moyen-Orient, vous réfléchissez à deux fois avant de vous dire, bon, puisque c'est comme ça, je n'aime pas l'État et sa politique, je m'en vais. Oui, vous partez où ? Donc si vous voulez, je crois
c'est un
encore.
Un équilibre précaire tout de même dans ces communautés entre les Arabes, Arabes musulmans pour certains, Arabes juifs pour d'autres, chrétiens, il en reste encore quelques-uns, et puis tous les Israéliens de confession juive. C'est un équilibre précaire quand même entre toutes ces communautés.
Oui, c'est une mosaïque à l'approche orientale, j'allais vous dire, hein, effectivement, mais ça marche plutôt pas mal au regard du Moyen-Orient, encore une fois, hein, ces 50 ou 60 ou 70 dernières années. Sauf que là, vous avez la conjonction de deux facteurs défavorables. Un, le vide diplomatique total depuis 20 ans. Vous vous rendez compte que 35% des Palestiniens et environ 25% des Israéliens n'ont jamais connu de processus de paix. Donc un vide diplomatique extérieur et un vide politique intérieur. Voilà deux ans que les gouvernements israéliens successifs sont démonétisés, qu'ils ne parviennent pas à réaliser de véritables coalitions, et c'est vrai encore pour Netanyahou là, ces derniers jours. Et du côté palestinien, Mahmoud Abbas, qui n'avait pas organisé d'élection depuis 15 ans, en organise et les annule, de manière extrêmement brutale. Donc l'expression de la jeunesse israélienne et de la jeunesse palestinienne, elle a été totalement bloquée.
C'est une escalade de violence, on utilise ce mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, à laquelle on assiste, qui paraît sans fin. Près de 1500 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, auxquelles Israël riposte par des frappes, avec un lourd bilan, plus de 80 morts au moment où on se parle, palestiniens dont des enfants, 7 côtés israéliens, des centaines de blessés. On a du mal à imaginer comment tout cela va s'arrêter maintenant que c'est lancé.
Alors c'est ce qu'on appelle un conflit de basse intensité, et le problème d'un conflit de basse intensité, c'est-à-dire qu'il fait entre guillemets, peu de victimes par rapport à d'autres conflits en Afrique ou en Asie ou au Moyen-Orient par exemple, c'est que une fois que ça s'arrête, une fois qu'une secousse, une énième secousse de violence s'arrête, s'estompe, ben on passe à autre chose. C'est-à-dire que le conflit israélo-palestinien, et je le dis depuis des années et je le déplore, ce conflit a été relégué par les grandes chancelleries du monde, et y compris par les chancelleries arabes, au rang de simple contentieux. Autant un conflit, il peut être urgent de le régler, autant un contentieux, c'est local et c'est pas urgent.
Y a un élément nouveau quand même dans cette donne aujourd'hui, ce sont le rôle de certains pays arabes, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan, qui ont signé des accords de normalisation avec l'État hébreu et qui se trouvent aujourd'hui en quelque sorte en porte-à-faux face au retour au premier plan de ce conflit. L'importance et l'influence des pays arabes qui parlent beaucoup mais qui font peu finalement.
Ah ben non seulement qui font peu, mais qui n'ont jamais réellement défendu ce qu'on appelle la cause palestinienne, ou alors de manière totalement symbolique.
Ça change la donne, cet accord avec l'État hébreu, cette normalisation ?
Alors moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que ces États ont obtenu de Donald Trump, il y a quelques mois de cela, d'abord de quoi estomper leurs critiques vis-à-vis d'Israël. Je rappelle que le Maroc a reçu en contrepartie de sa reconnaissance d'Israël la reconnaissance par Washington de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Je rappelle que les Émirats arabes unis ont obtenu une escadrille de F-35, de chasseurs-bombardiers, bon, etc. Et puis du côté palestinien, on s'aperçoit que décidément, il n'y a réellement aucun vrai allié dans la région et au-delà. Et par conséquent, vous avez là encore ce que j'appelais un vide diplomatique et un vide politique qui crée un climat délétère.
Alors, il y a le rôle aussi du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a qualifié Israël d'État terroriste cruel. Est-ce qu'il souhaite d'une certaine manière avoir une influence sur la zone et récupérer cette colère palestinienne ?
Ah, complètement. L'instrumentalisation, elle est totale. D'abord, non seulement de la cause palestinienne, mais d'un certain nombre de conflits dans la région. M. Erdogan a pris fait et cause pour les frères musulmans, les Irouanes. Ouais. Donc les durs au sein du monde musulman et en réalité des islamistes. Mais ça a été vrai dès le printemps arabe qui a prévalu il y a 10 ans maintenant. Donc M. Erdogan soutenait systématiquement les frères musulmans. Or, le Hamas, qu'est-ce que c'est sinon la branche palestinienne des frères musulmans? J'ajoute que l'allié privilégié dans la région aujourd'hui, la Turquie, c'est le Qatar. Et le Qatar soutient qui? Les frères musulmans.
Est-ce qu'on peut imaginer, Frédéric Ancel, une intervention au sol de l'armée israélienne à Gaza?
Oui, on peut l'imaginer parce que ça a déjà eu lieu. Je rappelle qu'il y a déjà eu 3 conflits entre le Hamas et Israël. Et à 2 reprises, les Israéliens sont intervenus au sol. Le problème pour Israël, il est d'une part éthique, d'autre part politique. Oui. Éthique parce que de toute façon, ça va faire énormément de victimes, tant chez les Palestiniens que chez les soldats israéliens. Et politique parce que Netanyahou, a priori, même s'il est encore Premier ministre, mais un Premier ministre sortant, j'allais presque dire par intérim, il n'a pas nécessairement l'imprimatur, le soutien de la société israélienne après une énième élection qui finalement ne lui a pas permis d'être réellement Premier ministre.
Je vous pose la question parce que sur le terrain, il y a des éléments qui semblent l'indiquer, la mobilisation des réservistes, le déploiement près de l'enclave d'unités d'artillerie, de blindés, d'infanterie, on a le sentiment quand même que l'armée israélienne se prépare.
Elle se prépare, mais est-ce qu'elle se prépare parce qu'Israël veut montrer ses muscles et sortir de la crise la tête haute et être quelque part le vainqueur, ou en tout cas le co-vainqueur au jour du cessez-le-feu, ou est-ce qu'elle se prépare parce qu'elle va réellement intervenir? Et ça, c'est très difficile à dire aujourd'hui.
Bien. Ce qui est frappant, c'est que cette fois, c'est un conflit aussi 3.0. déclenché par les réseaux sociaux notamment. Tout a commencé visiblement sur TikTok, le réseau social, le 15 avril. Des jeunes arabes de Jérusalem postent une vidéo de leur altercation avec un chef religieux juif dans le tramway. Elle suscite la fureur de certains Israéliens. Et après une seconde agression filmée cette fois à Jaffa, les ultranationalistes juifs défilent porte de Damas à Jérusalem-Est, ce qui entraîne des émeutes palestiniennes. Un rien peut déclencher la guerre à laquelle on assiste aujourd'hui.
Vous avez raison, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que la grande révolte arabe d'Adjamin al-Husseini, déjà à Jérusalem en 1936, s'est produite alors que, vous l'imaginez bien, Internet n'existait pas.
Oui.
Et je vous ferai grâce de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Autrement dit, les réseaux sociaux et le cyberespace, de manière générale d'ailleurs, accélèrent des mouvements de population, des mouvements d'opinion ici et là, mais fondamentalement, politiquement, ça ne change pas la donne.
On entend qu'en coulisses, l'ONU, le Qatar, l'Égypte et d'autres s'activent pour faciliter une médiation, ça peut fonctionner ?
De toute façon, rien d'autre ne peut fonctionner. C'est-à-dire que l'impulsion de Washington, d'une part, l'impulsion d'un certain nombre d'États arabes qui ont intérêt, je parle des régimes arabes, à maintenir la stabilité.
Elle est réelle, l'impulsion américaine de Joe Biden, ou elle paraît timide tout de même?
Alors, elle est timide parce que ce ne sera pas la priorité pour Joe Biden, qui a 3 grandes priorités, il l'a dit, et on peut le comprendre d'ailleurs, c'est le nucléaire iranien, qui n'est pas directement lié d'ailleurs à l'affaire palestinienne. Oui. C'est bien évidemment la rivalité commerciale avec la Chine et la rivalité politique avec la Russie et le dossier de l'OTAN. Bon, le conflit israélo-palestinien, je le disais tout à l'heure, est perçu à Washington comme ailleurs, comme un simple contentieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction, vous l'avez dit, elle est timide, mais je pense que sans l'impulsion, même timide, de Washington, on ne peut pas en sortir.
Oui, le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin a d'ailleurs réaffirmé le soutien des États-Unis au droit d'Israël à se défendre. C'est un peu la rhétorique habituelle américaine à laquelle on assiste.
Oui, c'est vrai. Alors, habituelle pré-Trump, parce que Trump n'était absolument pas crédible du tout. Mais il faut bien comprendre que Joe Biden provient de la famille politique la plus favorable à Israël dans l'ensemble du giron politique américain, c'est-à-dire la droite du Parti démocrate. Et que la majorité des citoyens américains, mais également des congressmen, démocrates comme républicains, sont favorables, non pas tant à Netanyahou qu'à Israël de manière générale.
Alors, dernier mot, peut-être pour en sortir de ce conflit, cette 3e réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui est attendue demain, qu'est-ce qui peut concrètement en sortir. Et est-ce que ça marche encore, cette diplomatie-là ?
Une exigence de cesser le feu peut en sortir. En tout cas, les trois fois précédentes, ça a marché. Et je vous dirais que ça a marché à chaque fois qu'il y a eu guerre entre Israël d'une part et un, deux ou trois États arabes d'autre part. Donc j'ai presque envie d'inverser le postulat en vous disant que c'est la seule manière dont on peut réellement en sortir.
Qui est l'interlocuteur des Nations Unies au Hamas ? Et comment se font les négociations avec ce groupe qui est qualifié de terroriste ?
Alors, question centrale, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que le Hamas n'est pas reconnu par le Quartet, qui avait été monté à l'époque par les grandes puissances.
Pour négocier un cessez-le-feu, comment on fait ?
Ah ben, on le fait discrètement et on le fait sur le plan strictement technique et militaire. D'ailleurs, je rappelle à vos auditeurs qu'un cessez-le-feu n'est pas un acte de paix, c'est pas un acte politique d'ailleurs de manière générale, c'est un acte militaire. Et c'est provisoire et c'est garanti par pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Hein. Par définition, on cesse le feu. Donc autrement dit, on peut discuter avec le Hamas assez discrètement et surtout sur le plan technique et militaire. Mais sur le plan politique, malheureusement, ça ne résout absolument rien.
Bien, merci Frédéric Ancel pour ces éclairages. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, le rappel des titres et les polémiques du jour. Un nouveau plan anti-voiture à Paris qui fait débat, évidemment, on en parlera tout de suite. Le rappel des titres à 18h30 avec Christophe Lamarre.
Emmanuel Macron condamne fermement les tirs revendiqués par le Hamas, le mouvement islamiste qui affirme avoir visé un deuxième aéroport en Israël. L'affrontement entre Israéliens et Palestiniens a fait une centaine de morts. Et dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande au préfet de police de Paris d'interdire la manifestation pro-palestinienne prévue demain à Barbès dans le 18e arrondissement. Il n'y aura pas de liste La République En Marche en PACA pour les régionales. Sophie Cluzel annonce qu'elle retire sa candidature et qu'elle soutient désormais la liste emmenée par le président sortant et candidat LR, Renaud Muselier. La chasse à l'homme dans les Cévennes, toujours aucune trace du fugitif qui a abattu deux hommes avant de s'enfuir dans la forêt. Près de 350 gendarmes et policiers sont à la recherche d'un individu équipé a priori d'une arme de poing et d'un fusil de précision selon le procureur. Enfin, le Paris Saint-Germain connaîtra ce soir le nom de son adversaire en finale de la Coupe de France de football. Le club amateur de Rumilly-Vallières affronte Monaco, coup d'envoi à 21h15.
Merci Christophe, on vous retrouve pour un point complet sur l'info à 19h. La météo, ambiance grise et fraîche à Nice demain. Voilà le programme en substance.
Alors même si, allez, l'ambiance va quand même un petit peu s'arranger demain, légère amélioration.
C'est sympa de vouloir être optimiste, mais la réalité, c'est qu'il ne va pas faire grand beau.
Non, non, ça, c'est bien résumé. Effectivement, il ne va pas faire grand beau. Les averses sont encore fréquentes. Demain, dès le début de la journée, sur les trois quarts du pays, il neige dans les Alpes à partir de 1400 mètres d'altitude, comme dans les Pyrénées. Dans l'après-midi, le temps s'améliore doucement. Les pluies vont se calmer, surtout sur la moitié ouest. Dans le sud-ouest et au bord de la Méditerranée, le vent souffle. Attention, cette légère amélioration, elle ne va pas durer puisque nous avons une nouvelle perturbation qui arrive demain en fin de journée par la Bretagne. Les températures, elles restent en dessous des normales de saison avec 3 à 12 degrés demain matin. Seulement 12 à 22 degrés du nord au sud l'après-midi. On aura 12 degrés à Aurillac, 18 pour Paris et 22 à Marseille et à Nîmes.
Bien, merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour complet sur le temps à partir de 19h.
Le 18-20, Julien
Le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta, bonsoir Michel.
Bonsoir.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Alexandre Saviana, que j'ai le plaisir d'accueillir, bonsoir Alexandra.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe à Marianne, bienvenue à vous. Alors on va évoquer dans un instant ensemble cette manifestation finalement interdite à Paris en soutien au peuple palestinien. D'abord je voudrais vous faire réagir à cette initiative de la mairie de Paris qui veut faire donc du cœur historique de la ville une zone quasi piétonne en 2022. L'idée est en fait d'en interdire les voitures, sauf pour les riverains, les bus, les taxis et les professionnels qui pourront continuer, eux, à circuler. Alors évidemment, parmi les Parisiens, la mesure divise.
Elle va trop loin dans son approche de l'écologie et que malheureusement, tous les Parisiens vont en pâtir.
Honnêtement, je suis assez d'accord avec les idées de repousser les voitures vers l'extérieur de Paris et de vivre plus sainement et avec moins de pollution.
Aujourd'hui, avoir un Paris sans voiture, c'est bien et c'est sûr que ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut y aller progressivement et vraiment trouver un compromis pour les deux.
Alors, je voulais votre avis, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand sens politique pour avoir un avis sur la question. Emmanuel Dutheil d'abord, est-ce que ça va dans le sens de l'histoire, finalement, de bannir les voitures polluantes de nos cœurs de ville ?
Oui, moi je pense que ça va totalement dans le sens de l'histoire. C'est un petit peu ce qui a été fait à Londres, hein, il y a quelques années. Ils avaient aussi réfléchi comme ça à réduire la place de la voiture dans l'ultracentre. Et puis attention, il ne faut pas se tromper, hein. On ne parle que des voitures qui sont en transit. Oui. Donc des voitures qui ne s'arrêtent pas, qui traversent Paris ou qui viennent de la banlieue. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, ne serait-ce que pour redonner de l'air au centre de Paris. Après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que faire ça, c'est la conséquence, c'est la finalité. Il faut avant ça développer des réseaux de transport en commun qui fonctionnent bien aux portes de Paris, dans Paris, c'est indispensable pour que ce genre de mesure soit acceptable et que tout le monde se dise, bah tiens, c'est simple, c'est sympa finalement, etc., etc. Donc c'est toujours le delta où j'ai l'impression qu'on commence par la fin et qu'on ne pense pas aux mesures d'accompagnement nécessaires.
Michel Cotard.
C'est quand même le quartier d'affaires le plus important de Paris qui est pris. Quand on voit la forme que prend la carte.
Enfin, il n'y a plus beaucoup d'affaires, c'est plutôt à la défense maintenant que ça se passe. Il y a encore quelques banques, quelques institutions financières.
Il y a beaucoup de ministères. Donc c'est quand même un quartier central. Oui, moi je suis assez de cet avis. C'est un très bon mouvement de vouloir interdire les voitures. Simplement, ça va trop vite.
Oui.
Ça divise absolument les banlieusards. Ça les éloigne, ça les stigmatise en quelque sorte, parce qu'on ne pourra plus traverser Paris. C'est vraiment, il y a des gens qui sont dans le nord de Paris, qui travaillent au sud. Bon, ceux-là sont obligés de faire des grands tours. C'est pour ça que les transports, voilà, c'est pour ça que les transports sont nécessaires. Mais il y a des transports en commun, c'est vrai, mais il y a aussi des transports en voiture. Et ça, franchement, le périphérique, c'est pas une référence fantastique.
C'est vrai.
Lorsqu'on voit les autres pays.
C'est vrai que Paris, de ce point de vue-là, c'est vrai, est une ville assez particulière. Vous évoquiez Londres. Pour ceux qui connaissent Londres, Londres est une ville beaucoup plus aérée, où on peut circuler plus facilement. Paris est une ville dense, qui a priori n'est pas faite pour les transports alternatifs comme le tramway, comme le métro aérien, comme les bus, parce que les voies de circulation sont étroites.
Mais c'est pour ça, donc, si vous arrivez à gagner de l'espace sur les. Parce que tout ça s'accompagne d'un plan très global. Hein. C'est-à-dire, on enlève les places pour garer les voitures et ce genre de choses. Donc on regagne de la place sur l'espace public. Pour derrière essayer d'en faire un espace plus vivable.
Alexandra Saviana, votre point de vue sur la question.
Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis de toute façon, à chaque fois que des villes ont piétonnisé leur centre-ville, ça s'est fait à condition d'avoir d'énormes travaux, notamment au niveau des transports et des places de parking. Je pense notamment à Copenhague qui, dès les années 90, a diminué de 28%, je crois, son trafic parce qu'ils avaient fait le nécessaire justement pour le favoriser.
Mais Anne Hidalgo, vous rétorquerez que si on ne fait pas les choses à marche forcée, ça n'arrive jamais. Exemple, parce que c'est un exemple qu'elle reprend assez régulièrement, les quais de Seine. Elle les a fermés de façon un peu unilatérale, ça a fait grincer des dents. Évidemment, aujourd'hui, personne ne reviendrait sur une ouverture à la circulation à nouveau des quais de Seine.
C'est pour ça que je trouve que la manière dont l'idée est amenée est assez maligne, parce que ça se fait à travers une consultation qui est ouverte aux Parisiens et qui est ouverte justement aux Parisiens intramuros. Donc, ce n'est pas les banlieusards qui vont aller donner leur avis sur cette idée-là.
Oui. C'est vrai que de ce point de vue-là, Anne Hidalgo a appris de ses erreurs. On l'avait accusée d'avoir été un peu trop directive, de ne pas avoir négocié au moment de la piétonnisation des quais de Seine. Là, pour le coup, pour reprendre ce que vous disiez, Alexandra Saviana, il y a une consultation qui est lancée.
Ouais, enfin bon, il y a une consultation dont on connaît la finalité. C'est quand même une consultation un poil biaisée.
C'est en politique, c'est l'intention qui compte.
Mais après, je trouve que, est-ce que sur des sujets qui sont si clivants et qui sont si compliqués à mettre en place si on ne les impose pas, est-ce qu'on peut vraiment faire une vraie concertation? J'en suis pas certain. Vous preniez l'exemple des quais, mais je trouve que d'une certaine manière, l'exemple de la rue de Rivoli à Paris, qui était un axe majeur de circulation, qui a été fermé à la circulation pendant le premier confinement et qui, semble-t-il, ne rouvrira jamais, puisque les gens ont l'air plutôt contents de pouvoir se réapproprier là encore l'espace public.
Oui.
Il y a donc, on voit que quand on l'impose, ça fonctionne.
C'est vrai qu'on a trop
d'exemples. Moi, j'ai râlé comme tout le monde parce qu'il y avait plein de bouchons dans Paris. Puis j'ai pris un vélo un peu à marche forcée. Puis maintenant, ça y est, je suis sur mon vélo et puis je suis très content.
Il y a plein
de gens qui ont fait
tout
ça.
Tout le monde ne peut pas se déplacer en vélo.
Non, mais il y a les taxis encore pour ceux qui peuvent les prendre. Et puis il y a le métro quand même.
Oui, c'est vrai, mais je voulais revenir au référendum. C'est vrai qu'on a vu tellement de référendums durer si longtemps. L'aménagement de campagne ou de ville, faire une concertation, c'est se donner 10 ans devant soi et elle ne les a pas.
Oui, mais non, c'est 2022 là, a priori, donc ça va aller relativement vite. Mais c'est le sens de l'histoire quand même. Est-ce que demain, on se dira, mais comme Europe 1, c'est aussi la radio qui écoute le monde changer, qui regarde le monde changer, est-ce que dans 10 ans, on se dira, c'était un peu comme la cigarette, on était fous là d'avoir des voitures polluantes dans nos cœurs de ville, avec nos poussettes, avec nos enfants.
Si on regarde les différents exemples autour de Paris, c'est probablement le sens de l'histoire. Oui, il y a Nantes, il y a Lille, et puis il y a Madrid aussi, vous les évoquiez, Londres ou Copenhague, ou même Istanbul, qui a fait une piétonisation de l'ensemble de la ville.
À ce mini-delta, qu'on peut imaginer que dans 10, 15 ou 20 ans, il y aura beaucoup de voitures électriques.
Oui.
On peut juste se poser cette question de se dire, est-ce que bouter la voiture a une logique, ne serait-ce que même écologique.
Elles seront autonomes, donc elles viendront nous chercher. Qu'on n'aura plus de voitures. Et qu'on n'aura peut-être plus de voitures personnelles. Ce sera des voitures partagées.
Bien sûr, ça c'est sûr que c'est l'évolution du... De toute façon, les constructeurs automobiles ne se présentent plus comme ça. Ils se présentent comme des solutions de mobilité, que ce soit Renault, que ce soit PSA.
Vous avez une voiture, vous, à Paris, Emmanuel Dutheil ?
J'ai une voiture, mais pour être très franc, je ne m'en sers quasiment plus du tout, donc je réfléchis à la vendre.
Bien. Non, dites-moi, j'en ai une et je m'en sers tous les jours. C'est pour ça que je suis inquiète.
Ouais. Bien, merci à tous les trois. On continue évidemment de débattre avec les grandes voix. On va parler de cette manifestation finalement interdite par le ministre de l'Intérieur à Paris en soutien au peuple palestinien. À tout de suite. 18h40, la suite du débat des grandes voix avec toujours Michel Cotta, Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1, et Alexandra Saviana, rédactrice en chef adjointe à Marianne. Alors, on va évoquer maintenant cette manifestation qui est finalement interdite par le préfet de police de Paris à la demande de Gérald Darmanin. C'était une manifestation qui était prévue a priori samedi en soutien au peuple palestinien. Hier déjà, Mathieu Bock pour Europe 1 était présent au rassemblement des Invalides à Paris.
On est là pour dire au monde entier, ça suffit l'impunité d'Israël. On n'est pas des antisémites. Israël, c'est un État terroriste et en vrai. On nous dit toujours, on ne sait pas c'est quoi la solution. Nous, on l'a, c'est la solution. On doit faire une résolution comme pour la Yougoslavie pour envoyer casque bleu et libérer la Palestine.
Mais la France, elle se doit d'intervenir. La France, il y a les droits de l'homme. La France, elle a toujours dit, en tout cas à l'époque, être du côté des opprimés. Qui est opprimé aujourd'hui, dites-moi? La France est derrière les États-Unis. Elle n'a pas de souveraineté, la France. Elle n'a pas son mot à dire. Elle n'a pas une position à prendre. On n'est pas d'accord que le droit international ne soit pas respecté.
Alors, on va pas refaire le match du conflit palestinien, évidemment, en 10 minutes, et ça n'est pas l'objet des grandes voix ce soir. Je voudrais vous interroger sur la polémique qui enfle, eu égard à cette interdiction de manifester. Plusieurs responsables politiques dénoncent des restrictions prises par Gérald Darmanin. Est-ce que vous comprenez que ça fasse polémique, cette interdiction de manifester, Emmanuel Dutheil ?
Moi, je suis un petit peu étonné de l'argument qui est donné, qui est de dire c'est parce qu'en 2004, je crois, il y avait eu, lors d'une manifestation qui 2014, qui soutenait déjà l'autorité palestinienne, des débordements.
Oui.
À ce moment-là, si on prend ce seul argument, je peux vous dire qu'il y a un paquet de manifestations qui vont être interdites en France, hein, puisqu'aujourd'hui, chaque manifestation sur une loi travail ou autre dégénère. Donc je trouve que cet argument pose problème. Après, on sait qu'on est sur une poudrière, on sait qu'on est sur un sujet très, très tendu et qui peut avoir des répercussions sur notre sol, puisqu'on voit bien qu'ici aussi, le dialogue est extrêmement compliqué entre les deux parties. Mais je trouve quand même que l'argument qui est utilisé est un argument un peu tendu.
Gérald Darmanin dit sur les réseaux sociaux « Pour l'interdiction, j'invoque une interdiction en raison de graves troubles à l'ordre public constatés en 2014. » Alors c'est vrai que si on interdit toutes les manifestations qui ont donné lieu par le passé à des troubles à l'ordre public, il n'y aurait plus beaucoup de manifestations en France, et on le déplore malheureusement, parce qu'il y a souvent de la violence aujourd'hui dans les manifestations. Il y a une réaction aussi qui fait réagir, celle de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, qui dit « C'est quand même scandaleux parce que partout dans le monde, ces manifestations sont autorisées. La France est le seul pays dans lequel cette manifestation est interdite. » Alexandra Saviana.
Ça témoigne pour le moins d'une certaine fébrilité du ministère de l'Intérieur. Je pense aussi à la préfecture de police de Paris. Je crois qu'hier soir, il y a le président de l'association France-Palestine Solidarité, voilà, c'est ça, qui a été arrêté et relâché dans la nuit. Ça témoigne d'un grand besoin de contrôle et de doute, de peur que la situation dégénère, effectivement. Oui. Mais le problème, c'est que cet État risque de faire dégénérer les choses dans la mesure où les manifestants vont se dire qu'effectivement, il y a une fébrilité du pouvoir.
C'est vrai qu'il y a un petit risque politique quand même, Michel Cotta, parce que vouloir interdire la manifestation, si jamais elle se tient quand même, ça veut dire que l'État
est
incapable...
Le problème de tous les préfets, c'est le problème. Les préfets sautent.
L'État est incapable d'interdire
la manifestation. S'ils ne sont pas capables d'interdire la manifestation, les préfets sautent, généralement. Oui. Mais enfin, moi, je trouve qu'il y a surtout l'argument du moment. Autant, je trouve que l'argument, ah oui, parce que dans une autre manifestation, quelqu'un a été pris à partie, c'est pas recevable. Mais autant, nous sommes dans un moment, charnière en France, dans lequel on voit bien que la sécurité est l'axe numéro un. Et deux, on est quand même dans un conflit à l'intérieur d'un des premiers conflits sérieux entre Arabes et Palestiniens et Israéliens.
C'est vrai, Michel Cotta, mais on va voir. Moment, les Français vont voir à la télévision partout ce soir, demain et peut-être dans les jours à venir, des manifestations partout dans le monde. Il y en a eu une à Chicago, il y en a eu une en Espagne, je crois. Et puis en France, manifestation interdite. Quel est le message politique que ça envoie ?
Le message politique, c'est le message sécuritaire, sûrement. On a assez vu de manifestations dégénérant, etc. Mais deux, l'axe international est quand même très important. Moi, je suis sûr que cette manifestation n'aurait pas été interdite s'il n'y avait pas eu des tirs de roquettes d'un côté et un embrasement à l'intérieur sur la place de Jérusalem de l'autre.
Est-ce que ça ne peut pas quand même avoir un effet contre-productif, Emmanuel Dutheil ? C'est-à-dire que ça cristallise les mécontentements, ça hystérise un peu la situation, plutôt que d'encadrer une manifestation qui est compliqué, c'est vrai.
Non, mais ça, c'est certain. Ça envoie aussi un gros message de faiblesse, hein, de dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'encadrer une manifestation en France et qu'on prendrait trop de risques en tenir une. Ça montre aussi quand même vraiment le côté inflammable de la situation. Et par ailleurs, Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'est plutôt positionné en soutien d'Israël, hein, puisqu'il a eu le patron de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, aujourd'hui en ligne, et il a condamné fermement les tirs revendiqués par le Hamas. Donc on est plutôt sur une ligne américaine, la ligne de...
Le Hamas, c'est pas l'autorité palestinienne.
Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment.
Sur ce point, pourquoi est-ce que Alexandra Saviana, ce conflit à chaque fois infuse la société française et la rend si électrique et cette volonté de manifestation en est un symbole.
Probablement parce que le côté politique infuse en France de plus en plus. On a pu observer des drapeaux du Hamas ou du Hezbollah dans des manifestations récentes en France. Et il y a vraiment une politisation du conflit qui, évidemment, on ne peut pas parler de guerre de religion, mais il y a une instrumentalisation du religieux qui fait que de plus en plus ça devient très inflammable avec d'un côté, on a l'impression... les personnes de confession musulmane et de l'autre juive qui s'opposent comme ça face à face en France avec un dialogue qui a l'air de plus en plus impossible et de plus en plus tendu.
Oui.
Et avec
Michel
cet exemple
Cotard.
Quand même qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qui est quand même inédit, de bagarres à l'intérieur de villes en Israël dans lesquelles il y a des musulmans. Donc c'est la coexistion dans
c'est
ces
plus bagarres,
villages qui a longtemps marché, après tout. On se demande comment, tant bien que mal. C'est vrai qu'elle se reproduit un peu, elle est un peu reproduisible en France.
Ouais.
Donc c'est ça, au fond, la vraie raison de cette peur de la manifestation, c'est ça, c'est la contagion.
Bien, et on suivra ça évidemment tout au long du week-end, car on risque d'en reparler, notamment au micro d'Europe 1. On marque une nouvelle pause, 18h47, on se retrouve dans quelques secondes. On va parler, du retour de l'inflation. Alors là, Emmanuel Dutheil, on va avoir besoin de vos lumières. L'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix qui pourrait revenir, ça fait peur. Aux États-Unis, c'est déjà un peu le cas. Est-ce que ça pourrait venir en France? Vous nous répondrez dans quelques secondes. À tout de suite. Oui, c'est un sujet qui fait trembler les places boursières mondiales dont on va parler maintenant avec les grandes voix, le spectre d'un retour de l'inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? Eh bien, c'est tout simplement la hausse des prix, conséquence de la reprise des économies chinoises, américaines, mais aussi des grands plans de relance, l'argent qui coule à flot en quelque sorte, les prix qui montent. Aux États-Unis, cette inflation, elle s'est accélérée en avril et a atteint 4,2% sur un an. Alors en France, pour l'instant, elle est limitée, 1,2%, mais voilà le spectre de l'inflation qui ressurgit. Emmanuel Dutheil, est-ce que cette crainte est réelle et justifiée pour la France?
Bien évidemment, elle est justifiée pour le monde entier, puisque la raison est très simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe et pourquoi les prix augmentent en ce moment? Parce qu'on s'est tous mis à acheter la même chose au même moment. Pendant la crise, les usines se sont mises à l'arrêt, il n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus rien. Quand ça a commencé à redémarrer un petit peu partout, en Chine, aux États-Unis, mais dans d'autres pays, tout le monde s'est mis à acheter des matières premières. Du cuivre, de l'aluminium, du verre, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et c'est l'application stricte de ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes et une offre qui ne peut pas se démultiplier. Donc oui, les prix vont augmenter. Rien qu'avant-hier sur l'antenne d'Europe 1, le patron de Renault nous disait en direct, nous dire oui, bah je vous mentirais si je vous disais que les prix ne vont pas augmenter. Donc les prix de tout ce qui utilise des matières premières venant de l'étranger vont augmenter.
Pourquoi c'est dangereux l'inflation? Parce qu'on sait que les salaires augmentent dans la même proportion, a priori, que l'inflation.
Alors, c'est dangereux, là, c'est des règles macroéconomiques. C'est dangereux parce qu'on estime que ça pourrait casser la croissance. Et surtout, on est dans quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire qu'on a rarement l'habitude de voir une inflation qui déborde comme ça au tout début de la reprise. Généralement, c'est quand la reprise est déjà bien installée que les prix commencent à augmenter. Mais là, il y a plein de signaux. Rien qu'aujourd'hui, aux États-Unis, McDo aujourd'hui dit on va augmenter les salaires pour faire venir des collaborateurs parce qu'on n'arrive pas à avoir des collaborateurs. Donc vous avez un petit peu partout dans le monde une tension inflationniste et le problème c'est qu'aujourd'hui il y en a pas mal, notamment du côté des Américains, où ils disent qu'ils pourraient augmenter les taux d'intérêt pour essayer de freiner tout ça, ce qui est ahurissant parce qu'on est encore, nous en tout cas en Europe, on est en pleine crise.
Alors on reçoit régulièrement dans Europe Soir des économistes ou des grands patrons qui ne croient pas à cette théorie de l'inflation française. Ils pensent que ça va rester circonscrit aux États-Unis. Est-ce que ça peut s'étendre tout de même ?
Non, mais c'est obligé que ça va venir chez nous. Encore, je vous donne un autre exemple. Le patron des vérandas Akena, il va augmenter ses prix de 2% au 1er juin parce que toutes ces matières premières augmentent. Vous avez aujourd'hui tous les patrons, si vous avez besoin de faire des travaux chez vous, oui, et que vous allez prendre un maçon ou un peintre et que vous lui dites bah, « c'est pour dans 6 mois », il va vous dire « je ne peux pas vous faire le devis parce que dans 6 mois, je ne sais pas combien me coûteront mes matières premières. » Donc si, c'est sûr et certain que les prix vont augmenter. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est de combien et est-ce que la reprise sera suffisamment forte pour absorber ces hausses de prix.
Oui, et puis il y a le mécanisme de la Banque Centrale Européenne qui peut permettre d'absorber un petit peu. On en parlera tout à l'heure, de limiter l'inflation.
Dans un monde si endetté, est-ce que la Banque Centrale n'est pas obligée finalement d'intervenir ?
Si, sauf que les règles des banques centrales, d'habitude, c'est on doit avoir 2% d'augmentation maximum.
On s'en est affranchi.
De toute façon, ça a affranchi toutes les règles.
Mais ce qu'il y a de sûr aussi, ça se voit en Amérique, il y a du chômage. Et beaucoup plus de chômage qu'on s'y attendait. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les gens ont désappris à travailler et que beaucoup ne...
Il y a ça. Et il y a aussi aux États-Unis, parce qu'ils ont eu beaucoup moins d'aides que chez nous, mais le plan Biden de donner des chèques et tout ça fait qu'une petite partie d'Américains qui, logiquement, auraient été contraints de retourner travailler parce qu'il n'y a aucun amortisseur social aux US, se disent « bon, bah, je vais peut-être attendre un ou deux mois pour me trouver un meilleur travail ».
D'ailleurs, Biden le sait très bien, puisqu'il a dit immédiatement « alors, ceux qui refuseront l'emploi qu'on leur revend ». Donc, on voit bien les effets. Mais c'est vrai que ce travail, ça manifeste aussi. En France, il y a beaucoup de restaurateurs, notamment, qui se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre. Donc, peut-être il faudra, en effet, les payer plus cher. Et donc, en effet... Il y a un risque d'inflation, mais dont on ne sait pas, vous avez raison, dont on ne sait pas à quel niveau il se stabilisera.
C'est vrai que les prix des matières premières sont en forte hausse, parce que c'est ça l'origine de cette inflation en partie. 75% de plus pour l'aluminium, 150% de plus pour l'acier, 180% pour le pétrole. D'ailleurs, on a vu que les prix de l'essence et les prix à la pompe avaient augmenté là, depuis quelques jours, avant le week-end de l'Ascension. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Français, mais c'est un fait. Alexandra Saviena, sur ce risque inflation.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, au contraire, le plan Biden, ça va peut-être permettre d'augmenter les salaires et donc d'augmenter le pouvoir d'achat, même si les prix augmentent. Je pense que le gros problème, il est vraiment européen, parce que le plan de relance européen, qui est à 750 milliards, alors que Biden est à 1900, il est totalement insuffisant. Et on l'a vu notamment, ne serait-ce qu'avec le syndicat, le plus puissant syndicat allemand, à la fin de l'année dernière, ils ont renégocié des hausses de salaire pour leurs ouvriers. Ils ont augmenté de seulement 2,3% alors qu'ils demandaient 4%. Oui. Et alors les travailleurs français qui, eux, ne sont absolument pas dans la même configuration et qui négocient directement avec leur chef d'entreprise, la négociation va être très dure et augmenter les salaires, ça va être très compliqué.
Alors je vous reprends sur le plan Biden, parce que c'est même 4 000 milliards de dollars qu'il a prévu d'injecter dans l'économie américaine. Non, mais ça montre le delta qu'il y a quand même avec le plan de relance européen. Il y a aussi un élément qui est d'une certaine manière une bonne nouvelle, mais qui pourrait avoir un impact sur le risque inflationniste, c'est le rebond. L'économie qui repart plus vite, notamment chez nos amis américains et du côté des Chinois, le PIB des États-Unis qui devrait progresser de 6% en 2021 contre 4% et 4,5% seulement pour celui de la zone euro. Il y a un redémarrage très fort là qui est en train d'être
enclenché. De toute façon, c'est assez historique ce qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Pas grand monde s'attendait à ce que ça reparte aussi vite. Ça s'explique par deux choses. Il n'a pas tout fait bien, Donald Trump, mais il a fait les vaccins. Et ça, c'est le premier élément de la reprise américaine. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont été vaccinés beaucoup plus vite que nous et avec en plus des vaccins qu'ils ont pu produire sur leur sol. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça a été accompagné d'un plan de relance assez extraordinaire du côté américain et qu'on sait que la machine, elle repart dans tous les cas beaucoup plus vite aux États-Unis, mais au même titre qu'elle baisse beaucoup plus vite que chez nous. Mais objectivement, en ce moment, c'est en train de repartir comme jamais. C'est ça que je trouve ahurissant. On parle de risque de surchauffe. C'est quand même fou. On n'est même pas sorti de la crise qu'on est déjà en train de parler d'un risque de surchauffe. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a au minimum du minimum perdu la bataille du démarrage.
J'ai vu qu'en Chine, il ne s'était jamais vendu autant de produits de luxe l'an passé que dans l'histoire de l'économie chinoise.
Parce qu'en plus, ils ne peuvent plus sortir de Chine. Ils ne peuvent plus sortir généralement. Ils sortaient en masse en Europe, justement. Ils venaient acheter les sacs et les grandes robes chez... en Europe. Oui. Maintenant, ils ne peuvent plus sortir. Par conséquent, pour la première fois, les succursales de Vuitton, etc., qui existe depuis très longtemps en Chine et qui était assez dépeuplé. On ne voyait pas grand monde, je vous assure, dans les étals
des
magasins
Internet.
De luxe. D'un seul coup, ces magasins de luxe se sont mis à vendre en Chine.
Mais il est probable qu'on ait quand même une forte reprise chez
nous. J'ai envie
quand
même de poser une question à Emmanuel, puisqu'il est le grand spécialiste. Généralement, quand même, la reprise américaine entraîne une certaine reprise dans le monde.
Non, mais ça, c'est certain. Et elle entraîne déjà un paquet d'entreprises qui travaillent avec les États-Unis.
Donc, ça n'est pas intégralement mauvais.
Ah, c'est obligatoirement une bonne nouvelle. De toute façon, s'il y a de la reprise, c'est une bonne nouvelle pour soutenir l'économie mondiale. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très forte reprise en Chine, qu'il y a une très forte reprise aux États-Unis. Donc, inévitablement, on va en profiter.
Le risque, c'est que c'est une reprise qui pourrait ne pas s'accompagner de création d'emplois, comme ce fut le cas par le passé.
Le problème de cette crise, c'est qu'elle a montré que dans plein de métiers, on pouvait travailler avec beaucoup moins de monde. Donc le monde de demain, c'est effectivement un monde dans lequel il y a beaucoup d'emplois qui paraissent, sur le papier, moins indispensables. Là, vous avez mille fois raison.
Alexandra Saviana.
Oui, effectivement. Et puis, en fait, le gros problème, et je réinsiste aussi là-dessus, c'est que... on aurait pu avoir une inflation vertueuse et je pense réellement s'il y avait eu ce plan d'aide et on ne l'aura pas parce que en dépit de tout ce que qu'Emmanuel Macron et la Commission européenne disent pour en disant que par exemple on entend une petite musique qui monte sur le fait que les États-Unis sont en train de rattraper leur retard sur l'Europe. En fait, non seulement on a raté le démarrage des vaccins, mais on va certainement rater le redémarrage de la relance. Et,
après, chez nous, on va sûrement faire un autre plan de relance. Ouais. Ils sont en train de travailler à des mesures pour faire sortir l'épingle.
Et puis on a soutenu beaucoup plus que les autres. On a soutenu beaucoup plus que...
Il va y avoir des mesures sur l'épargne.
On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Merci à tous les trois et bon week-end d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du jeudi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h57, on se retrouve dans quelques secondes avec le journal, évidemment, Christophe Lamarre. Et puis le Club des idées, comment soutenir nos éleveurs et nos producteurs de lait. On en parlera ce soir. À tout de suite.